BFM Business présente Recherche Talent avec Laure Clauzier.
Bonjour à tous et bienvenue dans Recherche Talent, la seule émission où ce sont les patrons qui passent un entretien d'embauche. Aujourd'hui, le défi est lancé à Anne-Charlotte Fredenucci. Bonjour, vous êtes la présidente du groupe Ametra. On va parler aéronautique, on va parler ingénierie militaire et j'ai trois étudiants pour vous. On les présente et après ils nous rejoignent.
Bonjour, je suis Aurélie Marty, j'ai 21 ans et je suis en quatrième année en filière aéronautique à l'ESTACA, école d'ingénieurs spécialisée dans les transports. Je suis également chargée d'affaires au sein de Junior ESTACA. Plus tard, j'envisage de travailler dans une entreprise industrielle au service de l'innovation. De ce fait, je suis ravie de pouvoir échanger avec le groupe Ametra, lui-même implanté au cœur de nombreux programmes industriels et partie prenante des grands défis technologiques de demain.
Bonjour, je m'appelle Alexandre Montel, j'ai 23 ans et je suis étudiant en 5e année à l'ESTACA pour devenir ingénieur aéronautique. Je suis également président de Junior ESTACA, la junior entreprise de l'ESTACA depuis maintenant plus de 40 ans. Je suis heureux de pouvoir aujourd'hui poser mes questions au groupe Ametra sur les enjeux de demain, étant moi-même passionné par l'aéronautique et développant en parallèle de mes études une activité de conseil.
Bonjour à tous, je m'appelle Baptiste Granier. J'ai 20 ans et je suis étudiant à Groupe Hightech, Institut des sciences du vivant et de l'environnement. Je suis également le président de la junior entreprise de cette école. J'ai toujours été passionné par l'aéronautique et l'aérospatiale et c'est donc une chance pour moi de pouvoir discuter avec la présidente d'Ametra Group, notamment sur la stratégie RSE d'une ETI évoluant dans l'industrie de pointe et de la défense.
Elles sont sérieux, nos ingénieurs. Bonjour à tous les trois. Bonjour Baptiste, Alexandre, Aurélie. Merci d'être venus sur le plateau de Recherche Talent. Je vous présente donc notre patronne du jour, Anne-Charlotte Fredenucci, qui travaille, qui est chez Ametra depuis très longtemps, parce que c'était l'entreprise de votre père que vous connaissez
absolument
par cœur. On parle de militaire, de défense. Qu'est-ce que Ametra fait exactement ?
Ametra est une société qui propose à la fois à ses clients de la conception et de l'intégration d'équipements. C'est-à-dire, typiquement, dans nos bureaux d'études, nous avons des collaborateurs qui conçoivent dans des expertises mécaniques, électriques, électroniques, qui développent même des softs. Bref, nous avons des ingénieurs et des techniciens, d'ailleurs, qui apportent une valeur ajoutée d'innovation à nos clients dans l'aéronautique, la défense, le nucléaire, le spatial et diverses industries. Et puis, dans une deuxième branche, nous avons des usines qui intègrent, qui assemblent les équipements qui ont été précédemment conçus dans nos bureaux d'études. Donc nos usines sont situées en France, en Tunisie, en Inde, alors que nos bureaux d'études sont situés exclusivement en France. Nous avons une douzaine de sites, nous avons un embryon de bureau d'études qui démarre en Tunisie, mais c'est essentiellement une activité française pour la partie conception. Donc voilà ce que fait Ametra, 750 collaborateurs, une soixantaine de millions d'euros de chiffre d'affaires.
Est-ce qu'avant de préparer cette émission, tous les trois, vous connaissiez Ametra ? Vous pouvez le dire, personne ne sera vexé. Hein.
Et surtout pas moi, parce que vous avez la réponse
c'est vrai
est non.
Qui connaissait Ametra de vous trois ?
Alors, pour notre part, oui, on est dans l'aéronautique, donc deux noms, mais pas plus.
Mais d'accord, ok. Mais deux noms quand même, il n'y a pas que, y a pas qu'Airbus dans la vie. Alors on commence avec vous, Aurélie. Vous avez 21 ans, étudiante à l'ESTACA, en filière aéronautique. Vous connaissez deux noms, c'est déjà pas mal.
Je suis extrêmement surprise, tant
Allez-y.
Mieux.
Allez-y, Anne-Charlotte est tout à vous.
Vous parliez d'innovation, de vos secteurs d'activité dans la défense, l'aéronautique. Aujourd'hui, on voit de plus en plus que les jeunes, ou en tout cas la nouvelle génération, elle a soif de mobilité. Comment vous faites pour concilier des programmes assez longs avec ces jeunes qui ont envie de bouger et de voyager dans le monde ?
Alors, c'est une très bonne question. L'avantage d'être dans l'ingénierie, c'est que justement, nous proposons à l'embauche à nos collaborateurs, je parle de la première branche, la deuxième, les usines, on est un peu moins mobile, mais sur la partie innovation, l'ingénierie, comme nous sommes à la fois présents dans l'aéronautique, la défense, le nucléaire, comme je le disais, le spatial, etc., et nous avons une douzaine de sites en France, nous montons des équipes pluridisciplinaires pour répondre aux besoins de nos clients, mais nos collaborateurs peuvent bouger à l'intérieur de ces équipes pluridisciplinaires. Je prends un exemple, on a développé pour un grand client de la défense toute l'architecture électrique à l'intérieur d'un véhicule. Ça a été un projet à plusieurs millions d'euros sur presque 3 ans. L'ensemble de l'équipe a bougé au fur et à mesure de ce projet. On a quelques personnes qui sont restées, mais quasiment la totalité des ingénieurs et techniciens ont quitté ce projet pour aller vers autre chose, puisque ça correspond en fait aux aspirations, comme vous le disiez, des jeunes et des moins jeunes d'ailleurs qui nous rejoignent. En fait, quand ils viennent dans l'ingénierie, ça n'est pas pour faire exactement la même chose que ce qu'ils feraient chez le client pendant 10 ans. C'est justement pour découvrir de façon beaucoup plus large et variée différents projets.
Alexandre.
Alors pour ma part, ce serait une question un peu plus, on connaît tous les enjeux à la fois énergétiques et écologiques avec les transitions actuelles.
J'ai vu que vous étiez aussi signataire de la charte de l'ingénierie pour le climat de Syntec Ingénierie. Cela vous engage un peu à limiter votre empreinte carbone par rapport aux solutions que vous pouvez proposer. Moi, j'irai un peu plus loin. Est-ce que vous pourriez envisager de refuser d'accéder à une demande d'un client si cette dernière est jugée un peu trop, pas en accord avec les enjeux environnementaux
actuels ? Refuser un client ? Pas facile, ça.
Alors, refuser des clients, ça nous arrive régulièrement pour différentes raisons. Cela dit, dans l'aéronautique, c'est une question qui est très théorique parce qu'aujourd'hui, toute l'aéronautique, et vous le savez bien, est tournée vers la décarbonation pour des raisons écologiques. Mais même si on n'y allait pas pour des raisons écologiques, soyons un peu cyniques, on doit y aller pour des raisons économiques, de toute façon. Et encore une fois, sans cynisme, je suis absolument convaincue que tous les grands acteurs de l'aéronautique, d'Airbus jusqu'aux équipementiers, jusqu'aux PME, ETI impliqués comme Ametra, tous les acteurs de l'aéronautique sont absolument convaincus qu'il faut décarboner, pas seulement pour des questions de coût, puisque vous savez, un kilo en moins dans un avion, c'est moins de fuel, donc c'est un billet d'avion moins cher à l'arrivée pour le consommateur. Mais même pour des raisons purement écologiques, tout le monde est convaincu parce qu'aujourd'hui, c'est ce que demande le consommateur. Si on n'était même pas convaincu, et chez Ametra, encore une fois, on l'est, on est EcoVadis Silver, on est absolument convaincu de ses valeurs écologiques. Mais si on ne l'était pas, de toute façon, c'est ce que réclame le consommateur. Donc toute l'aéronautique est embarquée, qu'on le veuille ou non, dans une grande vague de décarbonation.
Vous avez déjà refusé des clients pour quelles raisons ? Si ce n'était pas l'écologie ?
Je pense typiquement à de la discrimination. C'est-à-dire un client qui, quand on lui présente plusieurs fois d'affilée un profil et qu'il le refuse pour des missions qui se passent chez lui, quand on finit par comprendre que ce client refuse pour des questions de discrimination, que ce soit une femme ou une personne d'origine étrangère, on arrête de répondre à ce client. Parce que chez nous, on est un employeur qui donne une égalité des chances à tout le monde. Donc, il n'est pas acceptable de travailler pour des clients qui pratiquent de la discrimination.
Baptiste, c'est votre tour.
Ametra, donc c'est une ETI, et donc une ETI avec un chiffre d'affaires quand même assez conséquent, 60 millions. Donc ça veut dire que vous devez maintenant répondre à la loi Pacte. Donc ça veut dire que vous devez faire un rapport extra-financier sur l'ensemble de vos activités. Et justement, je voulais savoir comment est-ce que vous conciliez, vu que vous êtes multisite, aussi bien en France, en Tunisie, ainsi qu'en Inde, comment vous conciliez justement une stratégie RSE qui est globale et commune à l'ensemble de vos sites ? Est-ce que c'est justement une même stratégie qui est identique en France comme à l'étranger, ou elle est seulement mise en place en France ? C'est vraiment une question...
Vous ne connaissez pas Ametra, mais vous connaissez la loi Pacte.
Oui.
Vous êtes étonnant. Oui,
c'est une très bonne question, vous avez raison, parce que les obligations réglementaires sont clairement différentes entre l'Inde, la Tunisie et la France, c'est une certitude. Les grandes valeurs qui sous-tendent notre politique RSE, que ça soit l'égalité des chances pour tous, que ça soit les justes promotions, la transparence vis-à-vis des collaborateurs sur leur possibilité d'évoluer dans l'entreprise, que ça soit la décarbonation, bref, toutes ces grandes valeurs sous-tendent nos politiques RSE dans l'ensemble des pays. Après, c'est vrai qu'en France, par exemple, pendant la période Covid, on avait des obligations de maintien de salaire qu'on n'avait pas en Tunisie et en Inde. Donc, on a choisi en Tunisie et en Inde de mettre en place des maintiens de salaire qui n'étaient pas légalement obligatoires. Donc, on a rencontré les collaborateurs, on a vu avec eux ce qui pouvait leur sembler correct, juste, compte tenu du pays. Et on a discuté avec eux. Donc, des politiques différentes, parce qu'il faut quand même s'adapter à la culture locale, mais des valeurs qui sous-tendent ces politiques qui restent les mêmes.
Aurélie, est-ce que vous connaissez, Aurélie, le profil d'Anne-Charlotte Fredenucci ? Est-ce que vous savez que c'est la boîte de son père ?
Oui.
Et qu'il ne voulait pas qu'elle reprenne la boîte ? J'adore cette histoire, elle est géniale. Qu'il ne voulait pas qu'elle reprenne la boîte en disant que je préférais avoir un garçon. Et vous avez fait combien depuis en multiplication de chiffre d'affaires, Anne-Charlotte ?
Ah, on est passé de 300 collaborateurs à 750, de 20 millions à presque 60. Donc, on s'est bien développé.
Il ne faut pas toujours écouter son père.
Notamment, j'avais une question là-dessus. Vos interlocuteurs ou même vos clients, majoritairement, vous allez discuter avec des hommes. Oui. Est-ce que le fait d'être une femme, ça va être un avantage ou un inconvénient dans ce milieu ?
C'est une très bonne question parce que la réponse est à la fois oui et à la fois non. En fait, au début, quand vous arrivez et que vous êtes une femme, assez régulièrement, surtout quand vous êtes une femme jeune, assez régulièrement, on vous prend pour la jolie stagiaire, on vous met au fond de la salle et puis on ne vous parle pas jusqu'à ce que... Donc là, c'est plutôt un inconvénient dans cette première phase. Jusqu'à ce que dans une deuxième phase, vous arriviez à prouver votre professionnalisme, vous arriviez à montrer par les résultats, par les chiffres, par la croissance de l'entreprise, par les embauches, vous arrivez à prouver ce dont vous êtes capable. Et là, ça devient un avantage parce que vous devenez, parmi les professionnels, une des rares femmes. Et donc, quand il faut une femme sur la photo, quand il faut une femme pour aller dans tel rendez-vous, eh bien, il n'y en a pas tant que ça. Donc, régulièrement, c'est moi.
Sachez, Aurélie, que moi, quand j'étais jeune, j'ai reçu des manteaux, pensant que j'étais la fille du vestiaire et que je ne pouvais être que la fille du vestiaire. Et vous voyez, et aujourd'hui, je fais recherche talent. Quelle évolution! Merci pour votre question, Alexandre, c'est à vous.
Moi, je voudrais revenir sur ce que vous disiez tout à l'heure par rapport à l'Inde et à votre croissance. Justement, vous avez récemment exprimé l'importance d'investir à l'étranger pour travailler avec des entreprises comme Dassault ou Thales, donc en Inde, qui sont implantées en Inde, pour gagner des appels d'offres. Est-ce que, au vu de votre croissance et votre volonté de continuer les acquisitions comme celle de Styrel en 2021, vous souhaitez continuer de vous implanter ailleurs, à l'étranger, pourquoi pas dans les pays du Golfe, on le sait, qui sont importateurs de Rafale notamment?
Alors, vous avez tout à fait compris la raison pour laquelle on s'est implanté en Inde. Hein. Nos clients ont besoin d'acheter une partie de la valeur de ce contrat Rafale sur le sol indien à des entreprises labellisées indiennes. Et donc, nous avons créé une co-entreprise avec une société indienne, Newcon. Et cette co-entreprise est labellisée indienne et peut donc permettre à nos grands clients de cocher la case, de baisser leurs obligations, facture après facture, d'acheter sur le sol indien. Et la raison pour laquelle on l'a fait, c'est pas seulement pour développer de l'emploi en Inde. Moi, je me sens avant tout française et je me sens patriote économique, on va dire. Donc, c'est surtout pour développer de l'emploi en France. Parce que comme nous cochons cette case indienne, en France, nous continuons à gagner des contrats qui sinon seraient partis à nos concurrents, voire à l'étranger. Donc la réponse est oui, en théorie. Si demain, par exemple, on a un énorme contrat qui est gagné avec l'Indonésie ou avec un pays du Golfe et que nos clients nous disent « on a besoin de vous dans telle géographie », nous regarderons la question. Après, nous restons une ETI, donc on ne peut pas non plus ouvrir dans 50 pays à travers le monde. Mais en tout cas, notre stratégie d'accompagner géographiquement nos clients est bien présente.
Alexandre, vous avez envie d'aller travailler à l'étranger ?
Ça dépend du pays.
Mais par exemple, les pays du Golfe, ça vous dit ou ça ne vous dit pas du tout ?
Si c'est pour travailler avec la passion de l'aéronautique, travailler sur des Rafales ou tout ça, pourquoi pas, oui.
Vous avez un avion à votre col, oui. Pour ceux qui nous écoutent en radio, je le précise. Donc vous êtes dans une passion avion...
Oui, depuis plusieurs années.
Très développée, et c'est bien. C'est à vous, Baptiste, c'est une question.
Alors, la RSE, c'est quand même un sujet pour moi qui est assez transversal et qui s'applique aussi bien aux valeurs de l'entreprise interne, mais aussi à l'externe, en fait. Et moi, la question que je me suis posée quand j'ai regardé l'ensemble de vos clients et de vos prestations, c'est... Est-ce que selon vous, on peut être une entreprise RSE alors qu'on travaille dans le domaine de la défense ?
Merci pour cette question. Quand on s'est dit tout à l'heure, posez les questions, n'hésitez pas. Je pense que vous avez tout à fait raison de poser cette question. Pour moi, la réponse est définitivement oui. On voit malheureusement la reprise des conflits à haute intensité. Donc, il me semble aujourd'hui, malheureusement, j'ai envie de dire, indispensable d'avoir une activité de défense pour protéger nos frontières, pour protéger nos valeurs. Et je préfère avoir dans mes équipes qui travaillent sur des sujets défense, des jeunes ou des plus expérimentés d'ailleurs, qui se posent la question, qui se disent « mais est-ce que la défense est éthique ? Est-ce qu'on a raison de faire ça ?» plutôt que des va-t-en-guerres qui vont dire « ouais, ouais, allez, on y va ». Le questionnement éthique est indispensable dans l'industrie de la défense. Mais l'industrie de la défense est indispensable pour défendre notre éthique, nos valeurs en France.
C'est quoi votre réflexion, Baptiste ?
Pour moi, c'est un compromis, en fait. C'est là, sur ce point-là, en défense, c'est est-ce qu'on défend nos valeurs ? Est-ce qu'on défend les valeurs d'un autre ? Là, j'ai envie de reprendre l'exemple des Malouines. C'est avec le missile Exocet. Il a coulé un navire anglais, mais d'un côté, il a quand même permis de montrer la valeur de la France sur le domaine de la défense. Pour moi, c'est vraiment un compromis. C'est est-ce qu'on veut défendre nos valeurs ? Ou est-ce que l'ennemi, justement, qu'on a en face, doit justement être... neutralisé.
Non, mais dans la vraie vie, quand vous allez dans les soirées et que vous n'êtes pas habillé avec des vestes et des choses comme ça, et que vous dites « je veux aller bosser dans la défense », c'est bien reçu, c'est mal reçu, c'est...
Initialement, je ne me posais pas trop la question, mais là, justement, en faisant mes recherches, j'ai eu une vraie réflexion, et je pense que c'est intéressant de la voir et que les gens n'ont pas assez cette nuance, je pense.
Il nous reste 2 minutes, donc je suis désolée, mais on va prendre ces 2 minutes pour parler salaire, parce que vous n'allez pas y aller vous-même. Est-ce qu'on est mieux payé chez Ametra que chez Dassault, par exemple ?
C'est une bonne question. Je n'ai pas les salaires de Dassault.
Non, mais
donc je pourrais, j'aurais.
Est-ce qu'il y a un choix ETI à faire, un choix du cœur contre le choix du salaire ?
Alors, ça n'est pas ce que je dirais. Ce que je dirais, c'est que l'avantage dans l'ETI, c'est que vous pouvez avoir une progression salariale qui est beaucoup plus notable que dans les grands groupes où vous avez quand même des cases. Alors, je ne vais pas dire trop de mal de mes grands clients. Hein. Merci, Airbus, Dassault, etc. Mais voilà, dans les grands groupes, et c'est normal, c'est légitime parce qu'ils ont des structures qui sont plus organisé, on va dire, il y a des progressions qui sont normées. Chez Ametra, quelqu'un qui démontre de vraies qualités, un vrai savoir-faire, un vrai savoir-être, peut progresser beaucoup plus vite, y compris sans diplôme. D'ailleurs, on a aujourd'hui un de nos patrons de région qui n'est pas ingénieur et qui a pu progresser parce qu'il était absolument compétent et pertinent. Et c'est vrai aussi pour les ingénieurs. Vous pouvez aller beaucoup plus vite dans une ETI. Votre valeur personnelle sera beaucoup plus rapidement reconnue parce que vous êtes en contact finalement avec la direction de façon beaucoup plus proche.
Il nous reste une minute. Qui a une dernière question de vous trois?
Alors moi, c'était par rapport à ça, justement. Alexandre. Pas par rapport au salaire, mais est-ce que pour des jeunes ayant envie de prendre des responsabilités, s'ils rejoignent le groupe Ametra, est-ce qu'ils pourront accéder dans un futur plus ou moins proche à des postes managériaux?
Certainement, oui. Évidemment. On a plusieurs filières. Quand on réfléchit à notre gestion prévisionnelle des emplois et des compétences, on a pour la partie engineering trois filières. Une filière management, une filière gestion de projet, une filière expertise technique, puisque tout le monde n'a pas envie de manager ou de gérer des projets. Mais bien sûr, beaucoup viennent pour manager et se retrouvent dans des postes de management après une première période où on découvre un projet. Ça peut être au bout de 18 mois, par exemple. On évolue vers des postes de management.
Vous voulez être chef, Alexandre ?
Manager.
Mais c'est pas mal d'être chef. Mais parfois, les ingénieurs n'ont pas envie d'être chef. C'est vrai, j'en rencontre, j'en connais. Merci à tous les trois pour cet entretien. Anne-Charlotte, vous allez rejoindre les coulisses et on va débriefer votre entretien.
Recherche talent sur BFM Business.
Aurélie, Alexandre et Baptiste, on vient donc de faire passer un entretien à Anne-Charlotte Fredinucci. Vous aviez bien travaillé quand même pour préparer cet entretien, bravo à vous. Je crois que certains sont déjà très passionnés par l'aéronautique et l'avion. Vous l'avez trouvé comment, cette patronne, Aurélie?
C'était de très bonnes réponses, qui étaient vraiment fournies et avec des détails. Donc ça, c'est bien, parce qu'on n'a pas forcément d'exemple de ce qui peut faire une entreprise ou des exemples concrets de là où des ingénieurs peuvent aller ou y comprendre... Comment fonctionne l'entreprise. Donc, c'était très positif.
La vraie question qu'elle a, en fait, la patronne d'Ametra, c'est si vous avez deux offres, parce que vous allez en avoir des offres d'emploi, je ne me fais aucun souci pour vous. Si vous en avez une d'Airbus, une d'Ametra, est-ce que vous choisissez Ametra? C'est ça son enjeu à elle. Là, elle vous a quand même un peu convaincu, Aurélie.
Oui.
Bon, c'est une bonne nouvelle. Alexandre, vous qui êtes passionné d'avion, est-ce que ça vous a convaincu?
Pour ma part, elle m'a beaucoup convaincu également, de par son accessibilité et puis les réponses, notamment sur l'international, ou même si on rejoint le groupe Ametra sur les possibilités d'évolution et salariale. Voilà, moi, passionné d'aéronautique, à la base, je ne pensais pas vouloir aller travailler pour une société de conseil comme Ametra. Maintenant, je suis très ouvert aux propositions et je me renseignerai davantage sur leurs offres.
Parce que vous voulez avoir les mains dans le cambouis, c'est ça, hein? Vous voulez vraiment être dans la carlingue, quoi.
Avec les avions, mais tout en ayant une vision un peu d'ensemble sur le projet que je mène.
Baptiste, vous qui avez posé pas mal de questions RSE, qui vous inquiétez de ces questions-là, est-ce que ça vous a convaincu, les réponses d'Anne-Charlotte Fredinucci?
Je trouvais qu'elle était très sincère, justement, et moi, j'aime bien, justement, ce genre de profil, et je pense qu'il est essentiel, surtout pour des petits groupes où c'est assez compliqué, justement, d'avoir cette vision RSE. Et je pense que Ametra a quand même réussi ce challenge à mettre en place une politique RSE dans l'ensemble de son groupe, même à l'international, ce qui, je pense, c'est une véritable réussite, et je suis très content.
Mais c'est-à-dire que vous, par exemple, admettons, demain, vous rentrez en CDI chez Ametra, vous allez aller faire attention à ce qu'elle fait sur le plan RSE, regarder si elle remplit ses obligations, vous allez parler de la loi PACS, vous allez vérifier qu'elle est compatible.
Vous allez
être comme ça dans la boîte.
Moi, j'ai envie d'être comme ça, oui. Je pense que si je rentre dans Ametra, ce sera en tant que consultant RSE, parce que je n'ai pas les mêmes savoirs que mes deux collègues à côté. Mais
vous n'êtes pas ingénieur aéronautique.
Je ne suis pas ingénieur aéronautique, je suis ingénieur en biologie initialement.
Oui, mais ce n'est pas grave.
Mais justement, c'est nous, avec notre cursus, on a quand même une vision d'ensemble qui est très large. Et moi, j'aimerais bien faire ce reporting, justement, qui soit aussi bien social au niveau de la gouvernance et sur tout le procédé industriel. Et c'est là, je pense, qu'une place à Ametra me conviendrait parfaitement, oui.
Bon, est-ce que sur le profil, ça, Aurélie, elle vous inspire?
Oui, bien sûr. C'est une femme qui a quand même réussi, moi, je trouve, en termes par rapport au professionnellement parlant. Donc oui, bien sûr, ça m'inspire.
Sur la question, être une femme dans un milieu d'hommes, de temps en temps c'est bien, de temps en temps c'est pénible.
Voilà.
Aujourd'hui on en est là.
Oui.
Vous êtes prête à ça?
Oui, oui.
Ça
j'ai
vous
signé
pas,
à partir du moment...
Ça vous fait pas peur
où...
Aujourd'hui, dans votre école d'ingénieurs, vous êtes combien de filles?
On est 13%, je crois.
Oui. Vous avez l'habitude, en fait.
Oui.
Vous êtes un peu rodée à ces questions-là. Bon, c'est moi qui parle salaire, encore une fois. Hein. C'est pas vous. Il n'y a rien à faire. Ça ne vous intéresse pas, ce sujet? Non? Il n'y a pas un pour poser la question combien on gagne? Moi, je peux me dévouer, hein, ça ne me dérange pas, mais le sujet ne vous intéresse pas?
Je pense que pour notre génération, c'est plus trop une priorité. C'est vraiment les valeurs et le travail, la valeur ajoutée qu'on va avoir. Moi, je le perçois comme ça.
Vous n'avez pas un loyer à payer, des chips à acheter?
Si,
non, mais quand même, non, Alexandre, ce n'est pas une question qui...
Pour moi, je choisirais déjà l'entreprise pour la passion avant le salaire, en sachant quand même d'une certaine fourchette et que me garantisse un certain niveau de vie et de revenus.
Vous êtes tellement passionné par l'avion, de toute façon, que... Est-ce que vous allez rentrer là dans vos écoles et vous allez parler d'un métra à vos collègues, Baptiste, Alexandre?
Moi, j'en parlerai, puisque je pense que le domaine de la défense est assez peu évoqué dans le domaine de l'agroalimentaire, forcément.
C'est logique. Oui.
Mais je pense que les ingénieurs, surtout qu'en fait, on se rend compte dans notre école qu'on a quand même une valeur ajoutée au niveau de la RSE. Il faut qu'on aille dans ces groupes-là, il ne faut pas qu'on ait peur.
Ça vous ouvre, en fait.
C'est ça. C'est qu'en fait, il faut vraiment qu'on voit qu'on ait une possibilité d'action dans n'importe quelle entreprise. Et c'est vraiment notre plus-value, je pense, dans notre école actuellement.
Alexandre?
Pour ma part aussi, on est encore plus dans l'aéronautique, dans la défense, etc. J'en parlerai autour de moi, surtout après mes recherches que j'ai faites sur le groupe, l'échange qu'on a eu avec Mme Frenenucci, très positif, et je n'hésiterai pas à promouvoir, mettre en avant cette entreprise qui, pour moi, a de belles valeurs.
Aurélie?
Tout pareil, c'est sûr que c'est une belle entreprise, donc c'est toujours bien de la promouvoir et de montrer aux autres ce qui est possible aussi de faire à côté, autre que Airbus, les grands noms qu'on connaît, Airbus, Dassault, Thales.
Vous avez vu, vous avez dit, quand on rentre dans une ETI, ça va plus vite aussi sur des questions de carrière. On peut aller plus vite d'un poste à l'autre plutôt que dans des grands groupes où c'est parfois très, très segmenté avec des grilles et tout ça. Merci beaucoup à tous les trois d'être venus dans Recherche Talent aujourd'hui. On va débriefer notre entretien avec vous et puis voir si vous avez des CDI à la clé. C'est ça qui compte.
Recherche Talent sur BFM Business.
Anne-Charlotte Frenenucci, on était avec Baptiste, Alexandre et Aurélie. Ils avaient travaillé évidemment avant de venir. Ils ont des questions RSE. On voit cette cas notamment de Baptiste. Ça l'intéresse d'aller bosser pour la politique RSE de votre boîte?
Moi, je trouve ça absolument génial et j'adore ce type de témoignage parce que pour ne rien vous cacher, la première fois que j'ai dit à mon comité de direction on va s'engager dans une politique RSE, j'ai rencontré un certain scepticisme.
Non, ils vous ont dit greenwashing?
Alors, ils m'ont dit, non, mais ça intéresse les autres, ça n'intéresse pas les futurs collaborateurs d'Ametra. Donc, s'il faut faire quelque chose, on va signer un petit truc rapide, mais vraiment le minimum, parce que ça n'intéresse personne. Et moi, je trouve vraiment très intéressant de voir que ça fait partie des premières questions que posent les étudiants à Ametra. Oui. Quelle est votre politique RSE? Oui, mais vous êtes dans la défense. Comment est-ce qu'on peut être dans la défense et avoir une politique RSE? Ce sont des questions qui sont légitimes.
Mais ça vous plaît, le questionnement éthique de celui qui réfléchit un peu à ce qu'il fait, ça, c'est positif pour vous?
Je trouve ça extrêmement positif, mais pas du tout. Je trouve ça extrêmement positif. Moi, j'aime les gens intelligents qui questionnent, qui challengent. Surtout quand c'est fait de façon intelligente et respectueuse. Le débat, s'il reste respectueux, d'un côté comme de l'autre d'ailleurs, a tout pour faire grandir Ametra et pour faire grandir les étudiants aussi. Donc évidemment, j'y suis très favorable.
Aurélie, qui est étudiante à l'Estaca en filière aéronautique, elle disait qu'elles sont 13% de filles dans la filière.
J'ai entendu. Je ne pensais pas que c'était aussi bas. C'est vrai que c'est préoccupant quand même.
Ouais.
C'est préoccupant, la place des femmes dans l'entreprise. Chez Ametra, on regarde, dans les entreprises techniques, on va dire, les entreprises industrielles, chez Ametra, on regarde particulièrement notre index égalité hommes-femmes, et on en est très fiers, mais il reste un certain chemin à parcourir.
Parce que là, pour vous, c'est un problème de vivier, 13%.
C'est ce que j'allais vous dire.
Même si vous les prenez toutes.
Alors d'abord, on a du mal à les prendre toutes, parce que toutes n'ont pas envie d'aller dans une ETI. Et de toute façon, même si on arrive à embaucher des femmes, à regarder de façon privilégiée l'évolution des femmes dans l'entreprise pour s'assurer que quand il y a une promotion, l'ouverture d'une agence, on regarde vraiment des profils féminins jusqu'au bout, même si on fait ça, de toute façon, tant qu'il y a 13% de filles qui sortent de l'Estaca, et je crois que c'est plutôt 20-22% de filles qui sortent des écoles d'ingénieurs, on a un vrai problème de vivier, comme vous le dites.
Mais vous connaissez ce sujet par cœur, le fait d'être d'une femme dans un monde d'hommes. Il faut avoir quand même un discours de réalité. Oui, ça va avoir il va y avoir des points forts, mais parfois ça va être quand même compliqué. Encore, c'est encore ça quand même le discours en 2023.
C'est encore compliqué pour des femmes de rentrer dans des secteurs dits secteurs masculins. Moi, je ne suis pas complètement en adéquation avec ce terme de secteur masculin. Pourquoi est-ce que l'industrie serait un secteur plus masculin qu'un autre? Moi, à 2 ans, je jouais avec des trains, des fusées et des avions. Donc, je suis absolument convaincue que toutes les femmes qui sont chez Ametra ont la même passion de l'industrie que les hommes qui y sont. Mais en attendant, statistiquement, ça reste des secteurs dans lesquels il y a plus de présence masculine. C'est vrai. Et c'est vrai aussi que ça se traduit par des réflexions un peu déplacées par certains clients. Ça se traduit aussi par des jeunes filles. C'est arrivé dans l'environnement d'un de mes enfants, des jeunes filles à qui on dit en terminale « Mais qu'est-ce que tu vas faire en maths sup? T'es une fille ». C'est quand même extraordinaire qu'en 2022-2023, on entende encore ce type de réflexion. Donc moi, je suis là pour dire, jeune fille, jeune femme, engagez-vous dans l'industrie si c'est ça qui vous plaît. Allez-y. Oui, vous aurez essuyé 2-3 remarques désagréables, mais une fois que vous aurez démontré que vous êtes compétente, vous aurez devant vous une autoroute de progression de carrière. Donc allez-y, foncez, suivez votre cœur.
Encore une fois, c'est moi qui parle salaire parce qu'ils ne le font pas. Alors je ne sais pas parce que si c'est parce qu'ils trouvent que c'est vulgaire ou pas, mais ils n'ont pas l'air d'être intéressés au premier chef par cette question. C'est fou quand même.
Je pense qu'ils ont une certaine pudeur aussi, à mon avis, parce que on voit quand même, voilà, on voit quand même que la question du salaire, quand on en vient à des offres claires de
oui,
CDI, la question du salaire arrive assez vite sur la table. Mais je trouve intéressant quand même leur préoccupation de savoir ce que fait l'entreprise, quel sens elle donne à ses activités. Chez Ametra, on ne vient pas seulement pour un salaire, pour un chèque à la fin du mois, heureusement.
On vient dans une ETI pour défendre le patriotisme économique. Merci beaucoup Anne-Charlotte Frédélucci d'avoir été avec nous dans Recherche Talent. Si vous voulez participer à l'émission, vous nous envoyez un mail bfm@avecvous.fr. Non, c'est avecvous@bfmbusiness.fr. C'est dans ce sens-là plutôt l'adresse mail. Je vous dis à la semaine prochaine.